17h51 minutes météo en ce mardi matin. Ça se passe bien. On est sous le soleil. On est à 8 degrés. Le maximum qu'on va atteindre, c'est 23 degrés aujourd'hui. Vraiment un beau mardi. Demain, mercredi, encore plus beau. Soleil toujours au rendez-vous et un maximum de 28 degrés. Donc, ça se passe bien dans la météo. Passe moins bien dans la circulation.
Ouais, 40 Est, hauteur de la route 138, le Saint-Augustin de Desmaures, la voie de gauche qui est bloquée et il y a un solide ralentissement qui va sûrement affecter bien des auditeurs. Sinon, dans le secteur des ponts, c'est un autre matin qui est vraiment pas facile pour passer la rive sud à la rive nord. Capitale Ouest, ben jamé entre avant Seigneurial jusqu'à Laurentienne. Capitale Est, hauteur Robert Bourassa, quand même un ralentissement qui est considérable aussi. Robert Bourassa, direction sud vers le boulevard Le Bourgneuf, comme toujours, c'est difficile. En quatre sud, dans le coin de Chauveau-Ouest, il y a un petit peu de rouge. C'est pas catastrophique, mais je le mentionne quand même en s'en allant vers Shannon. Dans le coin de l'entrée de la base militaire aussi, là, il y a un bon ralentissement. Et les travaux sur Laurentienne-Sud, là, vers rue de la Faune, ça cause encore une fois ce matin des difficultés sur le réseau routier.
Merci Max et merci pour vos infos. 88-971-1021. Je le dis, j'allais dire régulièrement, je vais même dire souvent. Je répète souvent que Fernel Morissette, vulgarisateur d'actualité, fait une job phénoménale sur les réseaux sociaux. Son travail a été récompensé ce week-end au Gala Influence Création. Le prix pour influence positive et rayonnement social, rien de moins. De un, Fernel Morissette, bon mardi matin. Et de deux, félicitations, mon ami.
Ben, merci. Ça me fait toujours drôle de recevoir un prix pour influence positive d'un gala d'influenceurs. Ouais. Mais ben, j'étais flatté, c'est évidemment...
Y a-tu des influenceurs négatifs, coudonc?
Officiellement, non. Faut voir, je sais pas. Non, c'est quand même bien de voir cette organisation-là monter, parce que je pense qu'on arrive au point où c'est plus des petits créateurs individuels qui vont être capables d'avoir le genre d'impact. Je veux dire, à recommencer à faire ce que je fais aujourd'hui... Aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde serait assez différent, particulièrement avec les gouvernements qui commencent à dire vouloir à investir dans le numérique, investir dans la création numérique. Je pense que de plus en plus, on va aller dans cette direction-là. Pour le bien ou le mal, ça s'en vient et puis il faut se préparer.
Tu avais l'air réellement surpris en entendant ton nom, en montant sur scène pour le petit discours puis accepter ton prix. C'était réel, là? Tu étais surpris? Là.
J'étais surpris. Ils me l'ont pas dit. Même, je veux dire, dans la salle, tu peux savoir un peu qu'est-ce qui s'en vient parce que les caméras spot quelques secondes avant que ça arrive. Mais c'est que moi, j'étais convaincu que la gagnante, ça allait être Michel Houde qui était assis directement derrière moi, qui est une de mes amies aussi. T'sais. Alors même, la caméra allume, je dis, ah, t'es cool, bravo, on va applaudir. Pour... Oh oui, attends, c'est moi! j'étais ému. Surpris, ça a été un bon moment.
Les autres prix cette soirée-là, c'est quoi? C'est-tu la plus belle danse TikTok? C'est-tu des gros préjugés? Là?
Ben non, il y a une légitimité à faire de la danse sur TikTok aussi. Je veux pas dénigrer ça. Mais c'est, il y avait une catégorie sensibilisation, catégorie éducation, catégorie famille, parentalité. Okay. Ça touche l'ensemble de la société. Puis à peu près tout le monde aujourd'hui peut se retrouver quelque part sur les médias sociaux, trouver des créateurs qui leur font plaisir. Alors, et oui, il y a catégorie humour aussi, mais ça fait toute la gamme là, de okay. Ce qui se passe.
Dossier Saclic, on se lance dans l'actualité, mon ami Farnell. Est-ce que la SAC était rendue une succursale à distribuer des contrats aux amis comme dans le temps de la construction avant la commission Charbonneau?
Ben c'est intéressant que tu en parles parce que moi, j'ai commencé ma carrière, j'ai fini mes études en génie à l'époque, on remonte en 2009-2010, et tout frais, tout naïf, les grands yeux, je sors et je me fais engager par un petit bureau, une petite firme d'ingénieurs ici à Québec pour faire du développement des affaires. Et moi qui pensais que le monde fonctionnait d'une certaine façon, on était en 2009-2010, là, c'était juste avant que le monde réalise « Oups, il nous faudrait peut-être faire le ménage là-dedans ».
Ça frappait un mur.
Ça a été une dure école sur comment la vraie vie fonctionne pas toujours selon la théorie. Puis je regarde tout ce qui se passe. Avec ce qu'on commence juste à gratter la surface. Là. On a beaucoup plus de questions que de réponses. Le cadre de la commission Galant qui regarde tout ça est encore très limité, mais juste avec ce qui sort, il y a tellement de questions que moi, ça me rappelle beaucoup, encore une fois, de l'extérieur, puis j'ai pas plus d'accès que n'importe qui d'autre, ça me rappelle beaucoup ce que cette espèce de dure réalisation-là que moi-même j'ai eue à essayer de faire du développement des affaires pour une firme qui n'était pas dans la bonne gang, qui avait pas les bons contacts qu'il fallait dans le monde de la construction à l'époque. J'espère qu'on va faire le fond de la chose, mais j'espère aussi qu'on va avoir le courage d'étendre la commission pour aller voir l'ensemble de comment on donne des contrats en TI au Québec, parce que ça ressemble, pour moi au moins, là, au pire de ce que j'avais vu à l'époque.
Penses-tu que c'est la pointe de l'iceberg? Il y a des gens dans d'autres secteurs, d'autres organismes qui sont en train de se dire « j'espère qu'ils viennent pas cogner chez nous ».
Ben, c'est que là, on regarde une chose, on regarde ça clique. Un contrat, en théorie, là, un projet, et puis ce qui ressort, je veux dire, c'est quasiment un ordre de grandeur plus grand que tout ce qu'on a vu pendant la commission Charbonneau, où j'exagère un peu, mais à peine. En tout cas, de ce qu'on voit, là, beaucoup plus de questions que de réponses, ça semble être généralisé dans presque tous les projets de TI, que c'est la norme qu'il y ait des appels d'offres qui sont conçus pour une seule personne. Je veux dire, j'ai des amis qui travaillent en TI, ils disent « moi, j'applique même plus sur les appels d'offres du gouvernement parce que je sais qu'ils savent déjà c'est qui veulent. » Alors, il faut qu'on... C'est une question de courage politique, puis je sais que ça va faire mal au gouvernement de le proposer, mais à quelque part, je pense que si on regarde où est-ce que la CAQ est maintenant, si elle veut regagner la confiance du public avant les prochaines élections, il faut qu'elle ait le courage de mettre la lumière sur ses propres pratiques, quitte à dire, écoutez, on l'a échappé ici, mais heureusement, on a fait le ménage, on va faire mieux.
La question qui tue, est-ce possible, avec qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle, qu'autant le ministre de la Transformation numérique, Éric Kerr, que le ministre à l'époque du Transport, François Bonnardel, que la ministre actuelle, Geneviève Guilbeault, n'en savait rien?
Moi, selon moi, c'est pas la bonne question. C'est une question qu'on devrait quasiment pas se poser, parce que la responsabilité ministérielle, c'est une responsabilité stricte. Puis la responsabilité stricte, c'est un terme un peu technique, mais ça veut dire que tu es responsable, que tu sois fautif ou non. C'est-à-dire que tu as eu une intention ou une négligence, peu importe, là, tu es responsable. Et un ministre est responsable pour ce qui se passe dans tout son ministère, qu'il le sache ou non. Puis la raison pour ça, c'est qu'on veut justement pas permettre au ministre de dire « ah ben je le savais pas ». Ouais. On veut s'assurer que nos ministres qui ont des positions hyper importantes, névralgiques, aient tous les intérêts à creuser le plus loin possible. Et c'est pour ça que c'est une des rares situations dans notre société où on donne une responsabilité stricte, où on dit « ça va être ta responsabilité que tu le saches ou pas ».
Donc, je vais me permettre de te vulgariser, Fardel. Peu importe si ça chie dans ton ministère, t'es responsable
d'être... Exact. Tu peux pas dire « je le savais pas », tu peux pas dire « on m'a menti ». C'est ton ministère, c'est supposé être ton monde, c'est ta responsabilité, tu peux pas dire « tu le savais pas ». Ça marche pas de même à ce niveau-là.
Ça devrait aller jusqu'où? Est-ce que t'es dans le camp de ceux qui pensent qu'il devrait y avoir peut-être des accusations criminelles, si on se rend compte que non, t'as vraiment foiré, là? La responsabilité, tu l'as, tu vas payer?
La responsabilité criminelle, selon moi, ça, c'est une question de police. Et pour ça, pour qu'on ait une responsabilité criminelle, il faut qu'il y ait une faute. Il faut que quelqu'un sache ou ait intentionnellement ou au moins ait fait un aveuglement volontaire. Si ça, ça peut être prouvé par des enquêtes policières, absolument. Mais selon moi, la sanction, si on veut se rendre jusqu'à parler de sanction, c'est pour la responsabilité stricte. Pour la responsabilité ministérielle, elle est électorale. C'est aux électeurs, c'est aux gens qui vont voter aux urnes à décider c'est quoi la réponse appropriée.
Fardel, on saute dans le conflit Ukraine-Russie. Est-ce que l'Ukraine a inventé ou réinventé une nouvelle façon de se défendre / attaquer avec cette attaque impressionnante de drones sur des aéroports en Russie?
C'est encore tout frais. Là. En guerre, on a rarement toute l'information immédiatement. Mais de ce qu'on voit maintenant, je crois qu'on a vécu en fin de semaine, le monde au complet a vécu un moment de... Il va y avoir un avant et un après cette attaque aux drones-là. Parce que faut quand même réaliser l'ampleur de la chose, là. Avec des drones qui coûtaient, de ce que j'en comprends, puis encore une fois, les informations sont très floues, mais moins de 1 000 $ chaque, on parle à peu près d'une centaine de drones. Alors, une attaque totale qui a coûté en matériel, probablement dans le coin d'à peu près 100 000 $.
Ce qui est rien.
Ce qui est absolument rien pour une opération militaire. On a détruit des milliards de dollars de bombardiers russes, dont certains bombardiers qui à toute fin pratique, sont irremplaçables pour l'armée russe. C'est un moment où on est en train de vivre un changement technologique qui démontre que toutes les anciennes technologies, tout l'ancien équipement est peut-être rendu obsolète. Et ça, c'est un moment charnière et c'est un moment très instable et dangereux pour l'ordre mondial parce que soudainement, là, le déséquilibre militaire entre les pays qui assurent un certain ordre mondial est plus aussi clair que ça. Si aujourd'hui, avec 100 000 piastres de drones, on peut détruire une flotte aérienne qui vaut des milliards d'avions à la pinpointe de la technologie russe, Il y a très peu de pays qui ont des milliards de dollars à mettre sur des avions, mais il y a bien des pays qui ont des centaines de milliers de dollars à mettre sur des drones. Et je crois qu'il va probablement avoir beaucoup de pays à travers le monde qui vont regarder ça et qui vont dire « Hmm, intéressant, opportunité peut-être ». Alors, il y a des gros changements, je pense, qui s'en viennent dans l'ordre militaire mondial. C'est à peu près, pour moi, c'est comme si on avait vécu en fin de semaine la première fois qu'on a appliqué des mitraillettes sur des champs de bataille. Ça change complètement la façon que tu fais la guerre.
Est-ce que dans le futur, ça pourrait amener, puis même dans un futur proche, ça pourrait amener les grandes puissances à utiliser le nucléaire en disant « Hey, regardez, vous avez bien beau avoir des drones à 100 000 piastres, nous autres, on a le nucléaire, puis on est capable de vous anéantir quand on veut? »
Ben, quand on parle d'instabilité, justement, ça rentre un peu là-dedans. Et là-dessus, il y a des notions qu'il faut comprendre qui sont un peu complexes, mais la première, c'est la notion de la triade nucléaire. Ça, c'est quelque chose, toutes les grandes puissances nucléaires utilisent ça. Ça veut dire qu'ils ont trois volets de représailles nucléaires pour s'assurer que même si quelqu'un leur lance les bombes en premier, ils peuvent répondre. C'est cette promesse de réponse de représailles-là qui est supposée garder la stabilité. Personne ne veut lancer en premier parce qu'ils vont se faire anéantir en retour. La triade nucléaire s'appuie généralement sur trois volets. Il y a les missiles en silo terrestre, qui sont des missiles à très longue portée, les Russes en ont beaucoup. Il y a les sous-marins nucléaires qui peuvent être cachés n'importe où dans les océans, alors à peu près n'importe où dans le monde, qui ont aussi des missiles à portée intermédiaire. Et il y a les avions, les bombardiers qui peuvent, dans certains cas, sont toujours dans les airs ou au moins peuvent être dans les airs en quelques minutes. Ce qui fait que ces trois volets-là ensemble s'assurent essentiellement que c'est impossible de bloquer une représailles nucléaire et c'est ce qui est supposé assurer la stabilité. Tout le monde sait, si moi j'attaque, je suis garanti de me faire contre-attaquer. C'est impossible d'empêcher ces trois volets, chacun de ces trois volets-là. Généralement, les puissances nucléaires ont comme doctrine qu'une attaque sur les volets de leur triade nucléaire est un préambule à une attaque nucléaire, donc ils vont attaquer par...
Là, les drones ont démoli des bombardiers russes, alors ce serait une attaque sur la triade nucléaire.
C'est ce que certaines voix en Russie disent. Ils disent, là, on est en train de s'en prendre à notre capacité de se défendre ou de s'assurer qu'on va pouvoir envoyer des représailles. Donc, on est en train de s'en prendre à la stabilité nucléaire mondiale. L'Ukraine n'est pas une puissance nucléaire, mais si la Russie prend la position qu'à toute fin pratique, l'Ukraine est tellement appuyée par d'autres pays qui sont des puissances nucléaires, qu'on se le dise, la guerre en Ukraine, c'est une guerre par proxy. Oh, oui. C'est l'Occident contre la Russie qui veut juste pas se battre directement.
États-Unis, France ont la force nucléaire.
C'est ça, parce qu'on veut jamais avoir un affrontement direct entre forces nucléaires. Mais si la Russie prend la position que l'Ukraine est à toute fin pratique un satellite des puissances nucléaires et voici un satellite des puissances nucléaires qui s'en prend à notre triade nucléaire, ça peut commencer à être dangereux. C'est très improbable parce que, je veux dire, de ce qu'on comprend, les Russes ont encore leur capacité de représailles, mais il y en a qui se disent ça, ce genre de choses-là, c'est pas drôle et je pense qu'on devrait vraiment porter attention
comme
à ça.
Comme m'avait dit Einstein, je sais pas comment va se faire la Troisième Guerre mondiale, mais la Quatrième va se faire avec des pierres et des bâtons.
Ouais, je pense que si Einstein regardait ça aujourd'hui, il se dirait il va avoir des pierres, des bâtons et peut-être des drones.
Attends, mais parlant de drones, juste parce que je veux te lancer puis t'entendre là-dessus aussi, tu sais, l'être humain a comme la manie de vouloir toujours améliorer ce qu'on crée ou pousser la technologie encore plus. Là, je me dis que c'est rendu encore plus inquiétant si on pense que les drones ukrainiens était quoi la grandeur à peu près d'un sac à dos?
À peu près la taille d'un petit sac à dos. Là.
Clairement, on va vouloir faire...
Mon neveu de 8 ans pourrait en porter un dans son sac à dos puis avoir de la place pour ses livres d'école.
Imagine quand ces drones-là vont être encore plus petits et qu'on peut les transporter plus facilement.
C'est pour ça que ça change fondamentalement la guerre. Je veux dire, jusqu'à la semaine passée, il y avait un front clair. Puis si tu étais loin du front, tu étais en sécurité. Là, il y a des bases aériennes qui ont été attaquées qui sont à des milliers de kilomètres du front. Je veux dire, ils sont juste au nord de la Mongolie dans certains cas. Là. Si vous avez une carte du monde en tête, on est très très loin de l'Ukraine. Alors, ça force la Russie à se dire on est en sécurité nulle part. Puis c'est ça, un autre gros changement de paradigme. Et la façon que les drones ont été livrés, ils ont été dissimulés dans des conteneurs commerciaux qui ont été reconduits, encore une fois, de ce qu'on comprend pour l'instant, peut-être qu'on va en apprendre plus, par des chauffeurs russes civils, commerciaux, qui avaient bidé sur le contrat. Puis ils savaient, eux, ils pensaient qu'ils transportaient des matériaux de construction. Là. Alors, l'attaque militaire est énorme. L'attaque économique est encore plus importante parce que maintenant, la Russie est obligée de présumer que tous les conteneurs commerciaux sont une menace. Mmh. Comment tu fais de l'échange commercial à l'intérieur de ton pays avec ça? C'est l'attaque, les représailles économiques sont encore incalculables et je pense que ça aussi, ça va être une grosse question, mais on parle de justement l'amélioration. Ces drones-là, là, c'est des petits jouets qu'on peut acheter au Walmart quasiment. Ça va être quoi quand on va les miniaturiser, quand on va être capable d'en avoir la taille d'un 10 cents, puis on peut en mettre 1000 dans un sac à dos. La notion de sécurité existe à peu près plus. Et puis, changement de paradigme mondial, la façon que les forces vont répondre à ça, je sais pas, mais c'est sûr que partout dans le monde, présentement, tous les grands stratèges militaires sont en train de regarder ça et se disent « Ouais, il va falloir qu'on se prépare parce que n'importe qui peut nous faire ça aussi. »
Je termine là-dessus. Comment Donald Trump va réagir à tout ça? Il a traité de fou Vladimir Poutine la semaine dernière, mais on sait qu'il ne voulait pas trop que l'Ukraine riposte. C'est une riposte d'une grandeur inestimable. Il va se situer où, le président américain, cette semaine?
Je pense qu'il va avoir des discussions très difficiles dans le Situation Room là-dessus parce que, encore une fois, dans ce qu'on comprend, c'est tout nouveau. On ne le sait pas tout encore, mais les États-Unis n'étaient pas dans le coup. Ils ne le savaient pas. Alors, ça veut dire que peut-être qu'ils l'ont appris à quelques heures ou même dans le moment même. Et ça, je veux dire, pendant ce temps-là, les États-Unis poussent et martèlent pour un accord de paix. Ils étaient supposés avoir des négociations de paix cette semaine. On peut s'imaginer que là, ça va pas tant se faire que ça. Je suis certain que les États-Unis qui veulent, qui poussent depuis longtemps pour un accord de paix, un accord de paix qui n'est pas tout à fait honorable, je pense, pour les Ukrainiens pour l'instant. Là, c'est pas une victoire pour eux. Mais je pense qu'il y en a là-dedans qui vont se dire « OK, ben là... On retourne au tableau, on va recommencer à voir. Je pense que la fameuse réunion où Donald Trump a dit au président Zelensky « You don't have the cards, vous n'avez pas les cartes ben, », je pense que là, le jeu de cartes vient d'être brassé.
Il est au Québec le meilleur influenceur positif qui rayonne socialement aussi. C'est pas moi qui le dis, c'est le gars-là Influence Création. T'as le trophée et le prix pour le prouver. Farnell Morissette, allez le suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. On apprécie tellement quand tu passes nous voir à Rage Against le matin.
Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir.
Faut absolument parler circulation, là, c'est ben jammé sur la 40S et tout ça à cause de l'accident qu'on vous parlait un petit peu plus tôt là, dans la courbe de Saint-Augustin. Là.
Exactement, c'est encore d'actualité.
Audrey va falloir patienter encore un petit peu plus. On avait eu des messages, mais pas juste Audrey non plus. Là. Ça a l'air apparemment être bumper à bumper sur la quarantaine en ce moment. Merci pour vos infos via le 88 971 102. Boulevard.